Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, Conflit que vous pouvez également retrouver en kiosque avec notre nouveau numéro dont le dossier est consacré à l'armée polonaise, au réarmement de la Pologne, au réarmement de l'Europe centrale dans le contexte de la guerre en Ukraine. Numéro à retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com et puis également un numéro spécial bac pour les terminales ou les professeurs qui ont à préparer le bac, lui aussi est en kiosque et vous pourrez ainsi vous préparer à ces épreuves. Alors cette semaine, nous allons parler finances, guerre économique, évolution économique et politique des dernières années avec mon invité Charles Gave. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes financier, connaisseur émérite du fonctionnement des marchés financiers et puis observateur également de la vie politique et économique des dernières décennies. Et vous avez publié chez Pierre de Taillac un ouvrage qui s'intitule « La vérité vous rendra libre ». Alors Pierre de Taillac, nos auditeurs le connaissent pour ses ouvrages consacrés à l'histoire militaire. Il a fait une évolution dans ses publications pour une collection qui s'appelle « Idées en liberté » où il va publier donc des essais ou des analyses des idées contemporaines. Vous évoquez donc la vérité, mais la liberté à travers votre ouvrage. Et souvent, vous dites que la liberté, elle n'est pas au singulier, mais elle est au pluriel. Il y a plusieurs libertés. Et donc, il faut parler des libertés. Pourquoi cette distinction?
Si vous voulez, pour une raison assez simple, c'est que la liberté, ça s'exerce dans la réalité. Et la réalité, pas dans les concepts. Dans la réalité, c'est-à-dire, par exemple, la liberté de pouvoir élever vos enfants comme vous le voulez, dans les écoles de votre choix. La liberté de créer une société, la liberté de... Et donc, aussi curieux que ça paraisse, la liberté, c'est une conséquence du droit. S'il n'y a pas de droit, si le droit n'est pas respecté, il n'y a pas de liberté, si vous voulez. C'est la Sicile, c'est la mafia, en ce moment, c'est la loi du plus fort. Donc la base du libéralisme, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ce n'est pas du tout l'économie. Ceux qui ont créé le libéralisme intellectuellement, c'était des juristes plutôt, des gens qui réfléchissaient sur comment le droit doit-il être appliqué dans la société de façon à ce que les gens soient plus libres. Et donc le libéralisme est une branche du droit et non pas de l'économie. Et pour que vous soyez libre, encore une fois, il faut que vous soyez libre dans vos actes journaliers. Et la réalité, c'est que depuis 30, 40, 50 ans, nos libertés ne sont de moins en moins respectées parce que le droit est en train de devenir de plus en plus hostile à la liberté individuelle.
Alors on va revenir sur cette liberté, notamment à travers la question de la monnaie, c'est un de vos grands thèmes, on l'aborderait un peu plus tard, mais je voudrais d'abord définir la notion de finance. Il y a souvent une image assez négative de la finance, on imagine des gens qui s'enrichissent en dormant et gagnent beaucoup d'argent sur le travail des autres.
Oui.
À quoi ça sert la finance exactement?
Alors à quoi ça sert la finance? Ça c'est une très bonne question, parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Alors, ce qui s'est passé entre le 17e et le 18e et le 19e anglais, ça a été quelque chose de très extraordinaire. Dans l'histoire, vous avez toujours eu l'épargne. L'épargne, si vous voulez, c'est les gens épargnés parce qu'ils savaient qu'à un moment, ils risquaient de ne plus pouvoir travailler. Et donc, ils épargnaient, c'était une épargne de précaution et c'était dans le fond de la consommation différée. Ils consommaient moins aujourd'hui de façon à pouvoir continuer à consommer, même quand ils étaient plus productifs.
Pour la retraite ou pour leur vieux jour.
Leur vieux jour, etc. Et donc, c'était une espèce de jeu à somme nulle, quoi. Et puis, donc vous avez cette épargne qui existait, et il a commencé à y avoir des inventions qui ont eu lieu. L'Europe a commencé à inventer, plutôt qu'on ne le dit, mais au départ, c'était les grands ordres monastiques qui accumulaient le capital, qui permettaient de faire des développements comme les moulins, etc., l'irrigation des terres, tout ça, ça faisait partie de la même chose. Et à partir du XVIIe, il y a vraiment des inventions qui devaient être financées. Et donc, vous aviez d'un côté l'épargne, de l'autre côté les inventeurs, les créateurs, les entrepreneurs, appelons-les par leur nom. Et les entrepreneurs avaient besoin de beaucoup d'argent, et les pauvres épargnants, eux, ils ne voulaient pas risquer leur vieillesse. Donc ils demandaient à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse une espèce de mutualisation du risque au milieu, qui dise aux gens qui font de l'épargne, je vous garantis votre épargne, là, puis qu'ils prêtaient à des entrepreneurs de l'autre côté. Donc c'est ça la finance. C'est la mutualisation des risques entre ceux qui ne veulent pas perdre d'argent, les rentiers, et ceux qui sont prêts à tout perdre, des entrepreneurs.
Et quelqu'un qui apporte de la confiance entre les deux. C'est-à-dire, j'ai confiance dans celui qui me prête et j'ai confiance dans la personne à qui je prête de l'argent.
Je prête de l'argent. Et on se dit, il doit être compétent. Donc, dans beaucoup de cas, c'était des banques qui sont mises là et c'était très intéressant parce que c'était très souvent des banques locales. C'est-à-dire que...
C'est le chien qui rentre dans la salle.
Le chien qui rentre dans la salle.
Qui a une droit de visite.
Qui a un droit de visite, tout à fait. Et donc, c'était des banques locales, et quelque part, les gens avaient confiance dans le banquier local parce qu'ils le voyaient dans la ville, ils le voyaient partout. Donc il y avait une espèce d'honorabilité du banquier. Et donc cet homme était là, il disait, bah, écoutez, celui-là, le petit, là, il a l'air d'avoir une idée intéressante. On va, on va demander aux locaux s'ils ne veulent pas l'aider à le financer, mais c'est moi qui prends le risque, c'est lui qui fait faillite. Donc ça veut dire que le banquier doit avoir une rémunération supérieure. C'est le coût de l'argent, les intérêts que tout le monde payait, plus une espèce de prime d'assurance. Il chargeait des taux d'intérêt plus élevés, mais ça permet aux gens de mettre... Donc il s'est passé une espèce de transformation du plomb en or. C'est-à-dire que ce qui servait qu'à finance, qui était qu'une consommation différée, devient vous transformez cet argent en capital productif qui permet au niveau de vie de tout le monde de monter. Et c'est de là d'où vient la croissance. C'est-à-dire que vous avez une espèce, à ce moment-là, de transformation d'une épargne improductive en capital productif. Et c'est à ça que sert la finance.
Et le financier investit, mais il ne gagne pas à tous les coups. Il y a des fois où il perd.
C'est pour ça qu'il a besoin d'avoir un capital. Et que ce capital, il doit être prudent avec. Je me souviens, au début de ma carrière, un de mes actionnaires dans une de mes activités, qui était une banque suisse, qui s'appelait la banque Gutzwiller, qui était une banque assez ancienne en Suisse. Et cette banque, la famille Gutzwiller était responsable sur l'ensemble de leur fortune. C'est-à-dire pas simplement le capital qu'ils avaient mis dans la banque, mais ils étaient responsables sur l'ensemble de leur fortune. Ce qui voulait dire qu'ils prêtaient avec beaucoup de...
Faire attention, oui, sinon...
Beaucoup de retenue, vous voulez. Mais là aussi, il y a eu une deuxième révolution incroyable, c'était l'invention de la société par action. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que justement, on ne pouvait pas aller chercher votre fortune. C'est-à-dire, vous mettiez un capital dans la banque, puis si vous le perdiez, tout le monde perdait à ce moment-là. Mais ça permet aussi, à ce moment-là, aux gens de limiter leur risque. C'est-à-dire, s'ils ont 3 ou 4 banques, il y en a peut-être une qui saute, mais il y en a 3 qui restent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a eu une transformation juridique qui a fait que la responsabilité, d'un seul coup, s'arrêtait au capital qu'on avait mis dans la société. Ça a été une des révolutions juridiques incroyables, et c'est ça aussi qui a permis le développement des 300 dernières années. Quoi.
Et l'action, c'est à la fois un titre de propriété, et c'est aussi un contrat qu'on passe avec des personnes.
L'action, c'est un titre de propriété, et en principe, ce titre, la propriété à partir du 17e et Locke, est devenu intouchable. C'est-à-dire que le droit de propriété était un absolu. L'État ne pouvait pas s'en emparer en prenant je ne sais quelle mesure. Donc, on a eu apparaissant en même temps la société par action, le droit de propriété, et la capacité de mutualiser cette épargne et de transformer l'épargne improductive en capital productif. Et ça a été ça, la révolution industrielle.
Alors, vous parlez d'épargne improductive. Il y a une petite musique politique depuis quelques semaines qui dit que les Français qui ont de l'épargne sur leur livret A ou sur leur compte bancaire, c'est de l'épargne improductive. Et donc, il faudrait créer une sorte de grande banque européenne pour bien l'utiliser.
Bien entendu.
L'épargne.
Mais est-ce que si vous croyez une seconde que l'État est capable de créer de la valeur, vous avez un problème. l'État de faire fonctionner le système juridique, mais s'il était capable de créer de la valeur, l'Union soviétique serait aujourd'hui le plus des pays le plus développé au monde. Ce qui crée la valeur, c'est la concurrence des entrepreneurs et le fait que 80% fassent faillite et que 20% réussissent de façon extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que l'État est complètement incapable de faire, puisque l'État ne fait jamais faillite. S'il a une mauvaise idée, il va continuer à investir dans cette mauvaise idée, puisqu'il peut augmenter les impôts. Donc, la quasi-totalité, pour qu'il y ait croissance, pour qu'il y ait démocratie, il faut que l'État ne s'occupe pas d'économie.
Et l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, il ne dort pas. La banque l'utilise.
Ben, il est déjà utilisé. Oui. Mais la plupart des hommes politiques, si vous voulez, ils ont comme idée économique assez forte. Vous avez sans doute lu les bandes dessinées quand vous étiez petit. Vous avez de l'oncle Picsou qui nageait dans son tas d'or. Vous savez qu'il y avait ça en son gros tas d'or. Ils ont l'impression qu'il y a un gros tas d'or dans lequel les gens nagent et que le rôle des hommes politiques, c'est d'aller le piquer pour le redistribuer à ceux qui le mériteraient, d'après leurs critères. Mais c'est pas du tout ça comme ça. L'argent, en comptabilité en partie double, il est toujours prêté à quelqu'un. Les gens ne le savent pas, mais quand vous avez un compte bancaire et que vous laissez du cash sur votre compte bancaire, vous prêtez de l'argent à la banque.
Et justement, sur cet argent, il y a la question de la monnaie. Alors là, c'est un de vos grands thèmes. Je ne sais pas si vous pourriez vous définir comme monétariste.
Oui.
En économie.
Oui, je suis un peu monétariste, mais si vous voulez, c'est plus profond que ça. C'est que la monnaie est un immense mystère. C'est que pourquoi ça n'a pas d'existence, la monnaie. Ça n'a pas de réalité, ça n'a pas de coût, ça n'a pas de... Et donc, la monnaie, c'est philosophiquement une question absolument passionnante. Et elle permet aussi, si elle est bien gérée, d'intermédier le temps, c'est-à-dire de donner un prix au temps, puis de donner, par l'intermédiaire des taux d'intérêt, et puis de donner un prix à la géographie, par l'intermédiaire des taux de change. Donc c'est un outil extrêmement important. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'un homme comme Elon Musk a eu une espèce d'intuition, comme il en a beaucoup d'ailleurs, il a dit « la monnaie, c'est le système d'exploitation du système capitaliste ». C'est-à-dire que c'est ce qui fait tourner le système. Donc il dit, grosso modo, vous avez la monnaie qui est là-haut, comme si vous voulez Microsoft, quoi, vous voyez. Puis en dessous, il y a des gens qui font des transactions, qui étaient là. Et donc, la monnaie permet de faire entrer le temps, la géographie, le risque dans le système, mais il n'y a pas... Et donc, ça crée deux sortes d'actifs. Vous avez les actifs monétaires, actions, obligations, taux de change, etc. Puis en dessous, vous avez les actifs réels. Et les prix dans le système réel sont déterminés par les prix, par le système d'exploitation qui est au-dessus. Et c'est extraordinairement intéressant parce que si vous mettez, si là-haut, la monnaie ne peut pas être privatisée, puisqu'il n'y a pas, si vous produisez, il n'y a pas de gain de productivité possible dans la monnaie. Donc elle ne peut pas être privatisée, elle ne doit pas être privatisée. Mais elle ne peut pas être nationalisée non plus. Parce qu'à ce moment-là, l'État va se faire, comme il le fait depuis un certain temps avec l'euro d'ailleurs, va se permettre de faire n'importe quoi avec, de créer des faux actifs avec lesquels il paiera des services, etc. Donc vous avez cette espèce de dichotomie. Donc il faut que la monnaie, c'est un bien commun, et il faut qu'il soit géré de façon autonome et vis-à-vis de l'État, pour empêcher l'État de prendre la monnaie et de nous ruiner tous, et du secteur privé pour éviter d'avoir une crise comme en 2008-2009 où ils ont fait n'importe quoi. Donc, la solution de Milton Friedman, qui était assez marrante, c'était de dire ce qu'on devrait faire, c'est dans le fond supprimer toutes les banques centrales, qui ne servent à rien, mettre un ordinateur à la place. Cet ordinateur augmente la masse monétaire de 3% par an, quoi qu'il se passe, boum, 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 3% par an, comme ça, puisque c'est à peu près la croissance nominale. Et puis, vous fermez l'ordinateur à clé et vous allez jeter la clé au fond du Pacifique pour que personne puisse juger. Puisse intervenir dans le truc. Et c'est le Bitcoin. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est amusant de voir qu'un type qui a énormément réfléchi à la monnaie comme Milton Friedman pensait que, dans le fond, la solution, c'était un système monétaire qui était littéralement automatique, mais qui n'avait rien à voir ni avec les gouvernements, ni avec les...
Le Bitcoin, c'est une des rares inventions qui était pensée avant d'exister. Généralement, il y a quelque chose est créé, comme la chaîne à vapeur, puis après on la pense.
Oui.
Là, c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Et il a été pensé sans doute par un type qui comprenait parfaitement la nature de la monnaie. C'est le Bitcoin, c'est un truc... Autant je n'ai pas tellement d'intérêt pour toutes les autres monnaies, autant le Bitcoin, ça semble correspondre vraiment à ce que doit être une monnaie qui soit un bien commun.
Alors, à propos de monnaie et de bien commun, la question de l'euro. Alors, vous avez abondamment écrit sur le sujet. Et sur l'Institut des libertés, vous avez publié il y a 15 jours ou 3 semaines un article répondant aux critiques qui vous étaient faites, puisque vous avez longtemps dit que l'euro allait disparaître, et l'euro est toujours là. Et on vous dit, Charles Gaff est trompé, il a dit que ça allait disparaître, et pas du tout. Et donc là, vous revenez pour expliquer pourquoi l'euro a continué, et comment il a été utilisé à des fins politiques.
Voilà. Et donc l'euro, si vous voulez, au départ, c'était une idée stupide, c'est-à-dire de maintenir dans un taux de change fixe des gens qui ont des productivités différentes. Je vous donne un exemple, c'est que la France a à peu près 70% de fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants que l'Allemagne. Moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Si c'est comme ça que les Français veulent les organiser, ça ne me gêne pas. Mais en même temps, qui paye ces fonctionnaires ? C'est grosso modo ceux qui créent de la valeur, puisque on va prélever des impôts sur eux pour payer les fonctionnaires. Donc c'est le secteur privé. Et c'est ainsi. Mais ça veut dire que le coût du siège social France, de l'État français, est très supérieur au coût du siège social allemand. Et donc, pour que le système soit en équilibre, il faut en quelque sorte qu'on paye les fonctionnaires en monnaie de singe, dans une monnaie qui va baisser vis-à-vis de la monnaie allemande, de façon à laisser les entreprises françaises être aussi rentables que les entreprises allemandes. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous payez les entreprises et les fonctionnaires français moins que les fonctionnaires allemands, vous compensez un petit peu le coût de du siège social qui est trop fort. Donc, pendant très longtemps, le franc français ne cessait de baisser lentement vers contre le marque. Mais si vous bloquez le taux de change entre le franc et le marque, qu'est-ce qui va se passer ? À ce moment-là, la variable d'ajustement, à la place d'être le taux de change, va devenir les profits des sociétés. Et donc les profits des sociétés s'écroulent. Et quand l'euro a été créé, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », je n'en changerai pas une ligne d'ailleurs, c'était il y a 20 ans, dans lequel je disais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Et nous y sommes. Donc ça ne marche pas. Alors ça a sauté à peu près au moment où je m'attendais, vers 2009-2010. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que tous les traités qui avaient été signés, qui interdisaient par exemple le financement des déficits budgétaires par la Banque centrale, on les a envoyés par-dessus les moulins.
Donc on n'a pas respecté le droit.
On n'a pas respecté le droit.
Du droit.
On a changé le droit.
Coup d'État juridique, en quelque sorte.
Un coup d'État juridique pour permettre la survivance de l'euro. Mais l'étape suivante, c'était à partir du moment où ils se mettaient à acheter des... Pour faire survivre l'Italie, allez, peut-être la France aussi d'ailleurs, ils mettaient les taux d'intérêt à zéro. Mais revenons à mon banquier qui faisait son intermédiation au début, ce que je vous ai dit là, l'intermédiation du risque. Lui, maintenant, si les taux d'intérêt sont à zéro, il va peut-être prêter à 2%. Mais 2%, aujourd'hui, c'est à peu près le coût de fonctionnement des banques. C'est-à-dire les bureaux, les employés, tout ça coûte à peu près 2% des dépôts. Donc, si vous prêtez à 2%...
Ils ne gagnent pas d'argent.
Vous ne gagnez plus d'argent. Donc, ce que j'ai dit aux gens, puisqu'ils ont fait ça maintenant, il faut sortir des banques européennes parce qu'elles vont s'écrouler. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et alors, Draghi a dit, maintenant les banques s'écroulent, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on va sauter. Donc il faut que je fasse quelque chose pour sauver les banques. Alors qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis ?
Il a supprimé les mauvaises décisions qu'il avait prises avant.
Non. Il a dit, ça aurait été tout simple. Non. Il a dit, ce qu'on va faire, c'est que les États vont subventionner les banques. À ce moment-là, je regarde ça, je me dis, moi, tranquillement, les États vont subventionner les banques, ça veut dire que le risque de la faillite, l'inévitable faillite, va passer des banques...
Aux États.
Aux États. Et donc, vous vendez toutes vos obligations françaises. Mmh. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme le déficit budgétaire devient immense et ingérable. Ils disent, il y a cette épargne-là qui est en train de dormir dans les banques françaises, c'est ce que vous avez dit au début. Et bien donc, il faut qu'on s'empare de ça. Donc, vous voyez bien que, petit à petit, le droit de propriété, la réalité des prix, tout ça, c'est en train de disparaître, et que l'étape suivante, c'est la nationalisation de toutes nos épargnes.
Et ce que l'on voit à travers ce que vous analysez, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que quand on commence à modifier la monnaie, notre propriété, ça a des conséquences, pas immédiates, mais sur 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Et c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer aux gens, mais qui n'est pas facile. c'est que une économie, une politique, ça se juge sur la durée. C'est pas sur les 3 mois qui viennent où le PIB remonte de 0,2%, ce dont tout le monde se contrefout parce que personne ne comprend rien au PIB. De toute façon, c'est un truc qui n'a aucun sens. Et donc, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est juger sur le temps. Regardez, par exemple, en 1960, donc, quand De Gaulle est arrivé, la Suisse et la France, l'État dépensait, avait 30% du PIB. Aujourd'hui, nous en sommes à 60, c'est-à-dire que le poids de l'État dans l'économie a doublé en l'espace de 80 ans, mettons, à peu près 70. Et en Suisse, ils sont toujours à 30%. Et donc, ça veut dire que le niveau de vie suisse, qui était très inférieur au niveau français en 1960, est aujourd'hui plus de 2 fois supérieur. Parce que l'État, ça détruit de la valeur, ça détruit, ça fait des choses auxquelles... Et plus ils se plantent, en quelque sorte, plus les entreprises vont mal, plus le chômage augmente, et plus il faut faire des subventions aux chômeurs pour éviter qu'il y ait une révolution. Donc plus les déficits. Donc, à la place de dire le problème c'est l'État, les Français, chaque fois qu'il y a un problème, disent l'État c'est la solution. Et bien ils vont arriver à la solution finale qui est que l'État est en train de disparaître. Il ne fait plus son boulot, il ne fait plus rien, on ne sait pas ce qu'il fait, mais par contre il nous coûte très cher.
Et dans la dette, il y a aussi l'enjeu de parler de liberté politique, puisque la souveraineté, puisque la dette est possédée par des États étrangers.
Par des États étrangers. Et si un jour ces États étrangers nous disent, je ne sais pas, le Qatar ou n'importe quoi, disent vous êtes gentil, mais on ne vous finance plus parce que vous faites n'importe quoi, et bien à ce moment-là, la musique s'arrête quand même.
D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la Grèce, puisque l'Allemagne possédait la dette grecque, oui. Donc l'Allemagne a imposé à la Grèce sa politique économique.
Sa politique économique, et il y a la moitié de la jeunesse grecque qui s'est barrée pour aller vivre en Australie, pour aller vivre aux États-Unis ou pour aller vivre en Angleterre, et voilà quoi, ils sont tous barrés parce qu'il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus rien, ils ont eu une... Et déjà, c'est ce qu'on voit en France aussi, où vous avez, je crois, dans les pays développés, sans doute la plus grosse exportation de diplômés vient de France. C'est-à-dire que les Français exportent des bacs plus 7 et importent des bacs moins 7, quoi. Ça ne me paraît pas une politique particulièrement efficace à long terme. Quoi.
Alors, à propos de politique économique, il y a eu cette annonce il y a 3 ou 4 jours, au moment où on enregistre cette émission, le fait que Total allait probablement se faire coter à la Bourse de New York. Alors, c'est une entreprise qui m'est chère parce que j'y ai consacré ma thèse. Mais en fait, on s'est rendu compte que 40% des actionnaires de Total, enfin de l'actionnaire de Total, sont des actionnaires américains.
Oui, et pour une raison. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que. Les Français ont un coup de peau terrible. Ils ne se rendent même pas compte, d'ailleurs. Ils ont un coup de peau terrible. C'est qu'il y a un certain nombre de sociétés françaises qui sont gérées de façon absolument incroyable, qui sont extraordinairement compétentes, qui sont cotées à la Bourse de Paris, si vous voulez. LVMH, Hermès, Total, Pernod Ricard. Enfin, la France a un très grand nombre de multinationales de très grande qualité. Et j'en ai parlé un jour avec le président d'une des sociétés, j'avais dit c'est curieux, comme ces sociétés sont bien gérées, il avait rigolé, il m'avait dit Charles, c'est évident, parce que la plupart des sociétés, nous, se battent contre leurs concurrents. Nous, on se bat contre nos concurrents et contre l'État français à la fois. Donc, on est dans une forme olympique. Quoi. Ils sont, si vous voulez, ils sont à la salle de gym tous les jours en train de faire des pompes, donc ils vont pas tomber. Et on voit aujourd'hui que dans la balance des paiements française, si vous voulez, une grosse partie du service de notre dette qu'on paye au Qatar, par exemple, est compensé par les dividendes que payent ces sociétés qui payent à la France. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont partis. Donc, vous avez d'immenses sociétés qui ont compris que la France était foutue, avec cette politique qui tuait, et qui gardent le siège social en France, mais qui, si vous êtes actionnaire, vous permettent d'être dans le monde entier. Quoi. Ça n'existe pas en Italie, ça existe très peu en Angleterre aussi. Donc, s'il s'est passé quelque chose en France... Vous avez beaucoup entendu parler de la désindustrialisation de la France, c'est vrai, il n'y a plus d'usines en France, mais vous avez des affaires industrielles gigantesques en France, mais qui n'opèrent pas en France. Vous avez Schneider, vous avez Air Liquide, vous avez Seb, vous en avez d'immenses sociétés comme ça. Donc le know-how existe encore, et si on foutait la paix aux Français, ces sociétés viendraient réinstaller immédiatement des usines en France. Mais pour l'instant, c'est pas la peine, puisque la rentabilité, la moyenne, et la moitié de ce qu'elles traitent dès qu'ils mettent l'usine à l'étranger. Donc on a cet extrait. Et qu'est-ce que fait le corps politique français? Eh bien, il fait tout pour que ces gars-là s'en aillent. C'est-à-dire, par exemple, ils vont gueuler sur le salaire de...
Carlos Tavares.
De Carlos Tavares, ils vont gueuler sur le salaire du président Total en disant c'est scandaleux et tout. Mais si ça, ces gens vont dire, ben c'est tout simple. Regardez, les Simon Lafarge, c'était une très belle société française. On a tellement emmerdé les sociétés, les Simon Lafarge, qui était pourtant une société qui était vraiment dans son essence profondément chrétienne, catholique, si vous voulez. C'était un des points forts du catholicisme en France. Eh ben, ils sont fait racheter par leur concurrent suisse. Et comme ça, ils sont plus emmerdés.
Et dans le cas de Total, la France ne représente rien pour les bénéfices de Total. C'est pas là qu'il y a des gisements. Oui.
Ils perdent de l'argent.
C'est pas en vendant de l'essence dans les supermarchés ou enfin sur le bord des routes que Total gagne
de
l'argent.
Non, ils perdent de l'argent. C'est complètement idiot. Et on a, si vous voulez, une autre société, c'était Schlumberger aussi. On avait développé pendant longtemps, et là, l'action de l'État avait été relativement importante. Ils avaient essayé de développer toute une industrie pétrolière et parapétrolière. Avec Guillaume, par exemple, sous De Gaulle. Donc, il y avait eu un effort de maîtriser le côté intellectuel du pétrole, quoi. C'était, les crétins qui sont au Parlement actuel veulent absolument que ça s'en aille. Alors, ça peut s'en aller soit simplement parce qu'ils disent, bon, ben, on va mettre notre siège à New York, ou alors on va, la cotation maintenant, puisque la plus grosse partie des transactions se font. Et il y a, une autre série de crétins, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, qui disent il faut donc taxer les transactions. Vous savez, on met 0,1% sur chaque transaction. Mais si vous faites ça, bande de gros malins, la Bourse de Paris va fermer.
Oui, parce qu'elles vont contourner les transactions.
Elles vont aller se faire coter à New York, qui est déjà le cas pour Total. Et puis, il n'y aura plus une transaction qui passera par Paris. Quoi.
Oui, ou à Dubaï, enfin, en tout cas.
Ou n'importe où. À Singapour. Donc, l'idée, si vous voulez, que vous pouvez coincer les gens par la taxation, c'est idiot. Les gens intelligents, ils font pas de la fraude fiscale, hein, mais simplement, ils sortent de l'endroit où ils sont surtaxés, pour aller dans un endroit où on leur fout la paix. Donc, c'est extraordinaire de voir. C'est ce qui m'amuse le plus chez les Français, ça me désespère un peu aussi, c'est quand quelque chose va pas, ils vous disent, il faut que l'État intervienne. Et je leur dis, attendez une seconde, réfléchissez. Moi, j'ai 80 balais. Pendant ma vie, citez-moi un truc dont l'État s'est occupé et qui a bien marché. L'éducation, ça ne marche pas. La santé, ça ne marche plus.
La sécurité, ça ne marche pas non plus.
La diplomatie, on est grotesque, on se fait virer d'Afrique. tous les secteurs, les retraites, ça ne marche pas. Donc, quand vous me dites qu'il faut que l'État s'en occupe, je vous dis, si vous voulez que ça reste, ça marche à peu près, si vous voulez que ça cesse de marcher, confiez-en la gestion à l'État. Donc c'est extraordinaire, les Français ne comprennent pas que le rôle de l'État, c'est d'exercer ses fonctions dans les endroits où le marché ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir une police privée. Il ne peut pas y avoir une justice privée, parce que ce serait un peu embêtant. Il ne peut pas y avoir une armée privée, quoi qu'on l'ait eu de temps en temps avec les Suisses dans le temps. Enfin, il ne peut pas y avoir une diplomatie privée, parce que c'est embêtant. Donc ça, c'est les fonctions régaliennes, celles qui représentent le bien commun. Elles sont payées par les impôts. Mais demander à l'État de faire autre chose, c'est peut-être pas une bonne solution.
C'est comme demander à un boulanger de faire de la boucherie. Ce n'est pas son domaine, c'est pas sa nature.
Il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire, et il ne sait pas faire parce que le propre du capitalisme, c'est un système darwinien où celui qui fait mal disparaît. Or l'État, lui, il ne peut pas disparaître. Donc, il n'est pas soumis au darwinisme, c'est-à-dire que, grosso modo, on est une société de mammifères, parce que les mammifères sont plus efficaces, et on est toujours dirigé par des tyrannosaurex, quoi, des crétins qui ne comprennent rien.
Alors, parmi les auteurs que vous citez dans votre ouvrage, il y en a un qui est remarquable et qui est très peu connu en France, qui est Thomas Sowell.
J'adore Thomas Sowell. Tellement malin.
Voilà, intellectuel brillant, américain, noir américain, qui s'en prend aux politiques anti-discrimination. Donc finalement, ça fait un peu tousser chez les démocrates.
Oui, bien sûr.
C'est quelqu'un qui a eu un apport intellectuel majeur.
Majeur. Et qui n'ait pas eu le prix Nobel d'économie, c'est un scandale. Mais il est donc noir, il doit avoir 93 ou 94 ans aujourd'hui. Il a été beaucoup traduit en français, donc je ne saurais trop recommander à ceux qui nous écoutent d'essayer de retrouver ses chroniques qu'il publie régulièrement, qui ont été traduites, qui sont toutes plus remarquables que les unes que les autres. Et là, je cite une de ses phrases que j'aime beaucoup, qui est dans Il dit, la première loi de l'économie, c'est qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Vous voyez, ça c'est le... Et donc l'économie, c'est dans le fond comment on essaye de distribuer la rareté de la façon la plus efficace possible, quoi. Et puis la première phrase de la politique, c'est « faut pas prendre en compte la première loi de l'économie ». Oui, c'est rigolo, quoi. Oui. C'est tellement ça. On nous explique, et alors ce qu'ont fait les politiques, c'est qu'il y a la création de richesses d'un côté, et de l'autre côté, il y a la création de monnaie. Et la création de monnaie doit suivre la création de richesses. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il y en ait... Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure. Mais ces crétins d'hommes politiques pensent qu'en créant de la monnaie, ils vont créer de la richesse. Ils ne créent rien du tout. Ils créent de l'inflation. Et c'est ce que Thomas Sowell montre tout le temps.
Une autre citation que j'ai, alors qu'il a mis en tête de votre chapitre, c'est sur la vérité et la complexité. Il dit ceci. « Les personnes qui s'enorgueillissent de leur complexité et tournent en dérision les autres pour leur simplisme devraient réaliser que la vérité n'est souvent pas très compliquée. Ce qui devient complexe, c'est d'éluder la vérité.
Ben » Vous, ça vous fait pas penser à notre président, ça ?
Oui, c'est la pensée complexe, la fameuse pensée complexe.
C'est assez rigolo, non ? Parce qu'on a l'impression que ça a été écrit pour Macron, oui. Ça.
D'ailleurs, un conseil que je donne à mes étudiants en disant, quand vous avez un auteur qui est très compliqué, passez à un autre. Généralement, les gens intelligents s'expriment simplement. Oui. Et la complexité est toujours un petit peu dangereuse.
C'est pour ça que moi, j'ai eu toujours beaucoup de mal avec la philosophie allemande. Si vous voulez, je comprends très bien la philosophie, jusqu'à peu près au 18e français. Puis là, il y a une espèce de grand trou noir qui se produit, c'est la philosophie allemande. J'ai essayé d'y aller à plusieurs reprises. Je comprends rien, mais je vous dis tranquillement, je ne sais même pas où ils veulent en venir. Parce que, dans le fond, la philosophie, dans le temps, c'était d'essayer de réfléchir comment être un être humain convenable, quoi, d'une façon ou d'une autre. C'est le stoïcisme, parce que vous voulez, bon, c'est vrai. Et puis là, je ne sais pas très bien ce que je cherche. Ils parlent de pouvoir, ils parlent de trucs qui n'ont aucun intérêt. Ils ont fait passer la philosophie, en quelque sorte, de la compréhension individuelle de la façon dont on doit vivre à une espèce de façon dont leur nation peut dominer les autres. Quoi. Ce qui me paraît monstrueux.
C'est l'idéalisme allemand.
Donc, je ne réussis pas à comprendre la philosophie allemande. Donc, j'ai essayé de comprendre, puis je me suis dit, mais en fait, il n'y a peut-être rien à comprendre. C'est tellement compliqué qu'il n'y a rien à comprendre.
Un autre auteur que vous citez également régulièrement, c'est Taïeb, Nassim Taïeb.
Il est très étonnant, ce gars-là.
Là aussi, avec notamment la notion d'antifragile.
Nassim Taïeb, c'est un type très curieux. Bon, c'est un Libanais qui était au départ un trader en options, si vous voulez, sur les options, les calls, les puts, etc. Et il a mis à jour deux ou trois concepts qui sont évidents, mais que personne n'avait mis jamais avant lui. C'est un peu comme René Girard, si vous voulez, sur des types d'un seul coup, vous dites, mais bien sûr... C'est tellement évident, mais
pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?
Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? C'est très très surprenant. Et ce concept de l'antifragilité est tout à fait remarquable, c'est qu'il dit, dans le fond... Pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait des trucs extrêmement bien adaptés au monde dans lequel ils sont et qui sont fragiles. C'est-à-dire, prenez les dinosaures, ben, si la température monte de 2 degrés, ils crèvent tous. Ou baisse de 2 degrés, ils crèvent tous, parce qu'ils sont tellement bien adaptés à leur système qu'ils sont à la fois extraordinairement performants et extraordinairement fragiles. Et il dit, il y a des organismes de l'autre côté pour que la vie continue, qui ne sont pas si performants que ça, mais qui s'adaptent à tous les systèmes. Ben, l'humanité, par exemple, on est un bon exemple. On se débrouille dans les pays froids, on se débrouille dans les pays chauds. Donc, c'est des systèmes antifragiles. Et vous vous rendez compte que plus une situation devient optimisée, plus elle devient fragile. Et donc, ils disent ce qu'il faut, c'est éviter la trop grande fragilité. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé très intéressant. C'est le commerce international. La loi des avantages comparatifs de Ricardo, qui dit que l'argent, c'est la rentabilité marginale du capital qui détermine ce qui va être fait en France. Si vous faites le cassoulet mieux que les Portugais, ben vous ferez du cassoulet, les Portugais feront de la morue. Quoi, voilà. Et comme ça, il y aura plus de morue et plus de cassoulet, et tout le monde sera plus riche. Et c'est vrai. Mais quand on a fait ça pendant 30 ou 40 ans, vous avez des lignes de production qui deviennent extraordinairement longues, extraordinairement complexes. Et par exemple, on s'est rendu compte pendant la crise du Covid que toutes les matières premières pour les médicaments étaient faites en Inde. Et que si d'un seul coup, ils ne nous livraient plus parce que je ne sais pas quoi, il y avait, les bateaux passaient plus par le canal de Suez, j'en sais rien. Eh bien, nous, on crevait tous, quoi. Donc, le but d'un gouvernement, c'est d'avoir une société qui soit extrêmement performante, mais à limiter la fragilité excessive, quoi. Et là, encore une fois, je reviens aux Suisses, parce qu'avec la démocratie directe, ils ont réussi à limiter le côté excessif d'un internationalisme qui serait complètement fou, quoi. Donc je trouve cette notion de fragilité, dans le fond, le rôle d'un gouvernement, tel que je le comprends, c'est de favoriser au maximum les activités fragiles qui permettent la croissance, mais sans rendre notre pays trop fragile, donc il faut avoir des côtés antifragiles qui sont maintenus. Et par exemple, la politique nucléaire de Gaulle, c'était de créer un bloc d'antifragilité en France.
Merci beaucoup, Charles Le Gave, d'avoir évoqué ces éléments. Donc, votre ouvrage « La vérité vous rendra libre ». Les références sont à retrouver sur le site de Conflit, comme chaque semaine. Et puis, on peut également vous retrouver sur l'Institut des Libertés chaque semaine, ainsi que sur votre chaîne YouTube, avec notamment une série « L'économie expliquée par mon père », où vous développez bon nombre de concepts économiques pour rendre les gens plus intelligents et mieux comprendre le fonctionnement de l'économie.
Mon but maintenant, qu'on va lancer avec Emmanuel dans les semaines qui viennent, Emmanuel étant ma fille que certains d'entre vous connaissent, c'est qu'on va lancer une université de l'épargne, de façon à apprendre aux Français à gérer leur épargne, parce qu'ils ont fait tous des grandes études, beaucoup d'entre eux, mais ils ne savent pas par quel bout attraper leur épargne. Donc on va essayer de leur apprendre comment gérer son épargne, parce que si vous gérez votre épargne convenablement, quand vous serez un peu plus âgé, vous serez libre.
Ça sera très utile. C'est une des grandes questions de mes étudiants. Comment je peux commencer à épargner? Ils ont compris que la retraite par répartition, c'était pas une bonne chose pour eux, donc il fallait se débrouiller autrement. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine.